Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, Fréquence Mistral est votre radio de proximité et on a plaisir à parler de la culture à Marseille. Et aujourd'hui, on va parler de culture en la personne, enfin une personne, c'est un grand nom, mais en tout cas un festival, le Primet, donc le festival du documentaire de la Méditerranée, un festival qui s'est installé, qui a posé ses bagages à Marseille depuis longtemps déjà, puisque ça a débuté en 1994. Le festival du Primed, c'est beaucoup de chiffres, mais je vais essayer de faire simple. C'est 6000 spectateurs par an, c'est des projections, c'est 8200 films reçus depuis la création du festival, 484 sélectionnés. Chaque année, c'est 500 documentaires et films reçus depuis tous les bords de la Méditerranée et encore plus loin. Et c'est beaucoup de films sélectionnés, beaucoup de spectateurs et beaucoup de culture. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Raphaël Réuné, qui est chargé du public et qui vient dans nos studios pour parler de cette édition du Festival Primed. Bonjour à toi, Raphaël.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
C'est avec plaisir. Écoute, on est très heureux on t'avait reçu l'année dernière et on est très heureux de te recevoir pour cette édition du Primed. Déjà, Raphaël, j'ai présenté avec mes mots comme j'ai pu, j'ai mis beaucoup 50 fois, j'ai pas été exceptionnel. Est-ce que toi, tu peux présenter le Festival du Primed avec tes mots et nous dire qu'est-ce que le Primed ?
Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as très bien dit, le Primed, c'est un festival de documentaires et de reportages sur la Méditerranée. C'est un festival qui a lieu à Marseille déjà depuis un certain temps. Cette année, on fait notre 29e édition, donc qui ouvrira le 29 novembre et qui se terminera le 6 décembre. C'est un festival qui se déroule, en tout cas dans le centre-ville de Marseille, principalement à l'Alcazar, à la mairie du 1-7, sur la Canebière, au Mucem également et à l'Artplex. Et il faut savoir que nous, en tout cas, on a à cœur de proposer des projections de films gratuitement. Les entrées sont totalement libres. Et en tout cas, nous, l'intention du festival, c'est de faire découvrir des questions, des sujets de société sur la Méditerranée au public marseillais. Alors ça peut être autant des grands sujets historiques, notamment on présente cette année un film sur la guerre d'Algérie, sur les crimes de guerre commis par l'armée française, mais aussi on s'intéresse à la vie de tout un chacun, au quotidien des gens de ces territoires-là. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir à la fois autant réfléchir aux grandes questions, qu'elles soient politiques, écologiques, mais aussi découvrir des modes de vie. Et pour ça, on a aussi, en tout cas, on essaye chaque année d'inviter les réalisateurs et les réalisatrices de chacun de ces films pour que le public puisse évidemment discuter autant des films et de leur forme que des sujets qui sont abordés.
Ouais, c'est vrai que c'est des rencontres chaque année puisqu'il y a des projections débats donc, qui sont organisées par le Primed et qui permettent justement de faire se rencontrer tout ce monde-là autour de ce plaisir, ou en tout cas cette passion pour le documentaire et pour sa réalisation. Je voulais justement parler du Primed à la base, quand il a débuté, donc en 94, tu l'as dit, c'est la 29e édition. Quelle était l'ambition de ce festival quand il a posé ses valises ici à Marseille ?
Alors, l'ambition du festival, c'est, et une grande partie qu'on peut oublier, c'est de remettre des prix, en fait, aux productions documentaires.
C'est vrai qu'on l'oublie,
ouais. Et en fait, c'est dans le nom, hein, Primed, c'est effectivement de récompenser les productions documentaires qui portent sur la Méditerranée. Alors évidemment, ça peut être autant des films qui sont réalisés par des auteurs situés en Méditerranée, mais ça peut être des films qui sont produits bien au-delà de cette région. Mm-hmm. Et chaque année, on invite en fait un jury de professionnels qui visionnent ces films-là et qui les récompensent.
Oui, c'est vrai que vous avez un jury assez large et vaste qui vient de toute la Méditerranée. Justement, j'ai pas prévu d'en parler, débuter, mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'intervenants qui viennent de tous les bords de la Méditerranée et qui viennent ensemble se retrouver à Marseille pour juger, pour voir ces films ensemble et apprécier leur qualité.
Oui, tout à fait. Là, cette année, le jury il est présidé par Daphné Rosa. Donc là, on sort même un petit peu de la Méditerranée parce qu'elle est programmatrice documentaire du Festival des droits humains à Genève. Mm-hmm. Mais on accueille également, effectivement, des cinéastes du Maroc, des producteurs d'Algérie.
Ouais, j'ai vu que c'était assez vaste. On retrouve tous les bords. Justement, je voulais poser cette question par Raphaël parce que je me la suis posée en préparant cette interview. Mais comment définir l'identité méditerranéenne ? Parce que c'est vrai que c'est une vaste question. Où c'est qu'on arrête la Méditerranée ? Puisque c'est une mer, on est d'accord, et il y a tout son pourtour. Mais où c'est qu'on... Est-ce que justement Genève, on est trop loin de la Méditerranée ou pas ? Comment on définit cette identité quand on prépare un festival comme le Primed ?
Oui, alors sans pouvoir répondre directement effectivement à cette question qui est assez complexe et très large, je peux déjà donner en tout cas quelques points sur lesquels nous on s'attarde pour faire la sélection des films. Mmh. Et nous évidemment sont les pays donc frontaliers à la mer Méditerranée, mais pas que, on s'accorde effectivement parfois de s'en éloigner un petit peu, que ce soit la Jordanie et parfois même, ça nous arrive d'avoir des films qui débutent en Afghanistan et qui ensuite, dans le récit, se déroulent plus près de la mer. Donc effectivement, c'est toujours un sujet sur lequel on s'attarde. Quand on visionne le film, on se demande est-ce qu'il est méditerranéen ou pas. Et parfois, on n'a pas toujours la réponse.
Oui, c'est une vaste question, j'imagine. Justement, je voulais parler de cette sélection, puisque je l'ai dit dans l'introduction, mais vous recevez plus de 500 documentaires par an que vous devez, j'imagine, évaluer, juger. Comment vous faites justement pour choisir lesquels seront sélectionnés et lesquels ne seront pas sélectionnés?
Alors c'est un travail qu'on mène en équipe, hein, donc au sein de l'association on est 3 personnes, donc effectivement ces 500 films-là on se les répartit, chacun de notre côté on va faire une présélection qu'on va ensuite proposer aux autres, et nos choix c'est à la fois, il y a nos biais personnels, nos goûts personnels qui sont impliqués, mais effectivement on va à la fois s'intéresser sur ce que le film raconte par rapport à son sujet en fait, qui est abordé, mais aussi évidemment à la forme cinématographique qu'il a employée. Après, en fonction, comme on traite à la fois du cinéma documentaire et du reportage, c'est des critères qui peuvent varier en fonction des envies et des goûts, parce qu'effectivement on peut avoir des films parfois un petit peu abstraits qui au final où l'information, en tout cas le travail historique est assez moindre, mais qui a quand même il y a une proposition formelle qui peut nous toucher. Et qu'on...
Du coup, vous allez partager avec le public qui vient, et un public d'habitué, j'imagine. Mm-hmm. Justement, je voulais parler de cette programmation et de savoir s'il y avait un fil rouge, si vous choisissiez chaque année un thème commun pour les films, même si, bien sûr, il y a en fond la Méditerranée, et j'imagine que c'est toujours l'axe principal, mais est-ce que vous avez chaque année une thématique ou un fil rouge pour retenir tous ces documentaires?
Alors non, on ne construit pas effectivement de fil rouge, on y va au coup de cœur en fait, lors des visionnages. Après, il y a toujours des sujets qu'on aborde à la fois parce qu'on s'y sent obligé, parce que c'est au cœur de l'actualité, on pourra en parler tout à l'heure.
La
question israélo-palestinienne, ça nous a semblé évidente à aborder cette année. Mais effectivement, le sujet de la migration... l'environnement, l'écologie, c'est des sujets qui reviennent chaque année, qui nous tiennent à cœur parce qu'on souhaite les aborder effectivement. Pareil pour la place des femmes dans la société en Méditerranée, toujours.
Oui, qui reste j'imagine des axes forts pour vous. Justement, on arrive sur cette actualité puisque déjà parlons de cette affiche en premier lieu avec ce magnifique gabion qui porte des fausses ailes de colombe avec un rameau d'olivier, donc j'imagine c'est le symbole de la paix mais détourné à la sauce marseillaise, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors la plupart des films qu'on présente sont quand même assez lourds dans leur thématique, dans leur sujet, sont assez graves. On a souhaité avec cette affiche à la fois mettre en scène l'idée de l'espoir, de paix dans cette région du monde, mais aussi mettre un côté humoristique effectivement par ce gabion qui déguisé en tout cas qui essaye de ressembler à une colombe, qui évoque évidemment notre ville Marseille.
Oui, la ville de Marseille et ce qu'elle peut amener au monde. Et justement cette année, quand on pense Méditerranée, en tout cas personnellement quand je pense Méditerranée actuellement, on pense forcément au conflit israélo-palestinien, aux massacres qui ont eu lieu le 7 octobre et au génocide qui a suivi en Palestine. Justement, vous avez choisi de suivre cette thématique et de venir parler de ce documentaire. Déjà, est-ce que c'était pas trop dur pour vous de voir tous ces documentaires, de préparer une projection autour de ce thème-là?
Alors, effectivement, c'était pas évident parce que pour des films sur les horreurs qui sont passés à Gaza, on en a reçu un certain nombre. Et à un moment, on a dû le faire vraiment. C'est ça qui est intéressant, c'est de travailler en équipe, c'est de se partager parfois des films sur les mêmes sujets parce que on a affaire en tout cas à des... c'est tellement grave que ça en devient parfois difficile de juger de la qualité même des films et se demander s'il peut être pertinent pour le festival, tellement les images qu'on voit sont violentes en fait. Effectivement.
Ouais, c'est ça. Et l'image est quelque chose qui marque beaucoup plus souvent que le bruit ou la lecture, c'est quelque chose qui reste imprimé et qu'on garde en soi.
Tout à fait, tout à fait. Et cette année en tout cas, nos choix sont arrêtés sur deux films. qui vont tous les deux être diffusés à la suite en clôture de l'événement. Donc ce sera le samedi 6 décembre à l'Alcazar. Et le premier, donc effectivement, donc, qui porte sur l'attaque du Hamas en Israël, donc, qui s'appelle Holding Layat de Brandon Kramer, qui est un film qui, en tout cas, qui retrace la lutte d'une famille israélienne pour essayer, en tout cas, ils font comme ils peuvent pour faire revenir un membre de leur famille qui a été pris en otage à Gaza. Et on suit tout leur parcours face évidemment au gouvernement israélien. Ils vont aussi aux États-Unis. Donc voilà, donc là on suit vraiment ce parcours de cette famille qui, je trouve, d'une certaine manière, représente un petit peu tous les clivages qu'on peut trouver dans la société israélienne, allant des revendications politiques dénonçant les crimes qui se passaient à Gaza, dénonçant la politique de Netanyahou, jusqu'à parfois il y a justement un des fils de la famille qui après les attaques du 7 octobre devient raciste, extrêmement en tout cas.
Ouais.
Donc c'est au sein de cette famille, on a vraiment tout un paysage d'idées assez opposées quand même qui sont présentées.
Ouais. Et qui montre peut-être sur les différentes sphères de la société israélienne, de la pensée en bloc, en se disant c'est une seule pensée uniforme. La société israélienne, elle est comme toutes les sociétés protéiformes, il y a plein de manières de voir le monde, des gens qui manifestent pour la guerre, d'autres contre la guerre, enfin personne n'est... rappeler aux gens qu'il faut nuancer quand même ce qu'on voit.
Tout à fait. Et le deuxième film donc, qui suit celui-ci, donc, qui va pour le coup terminer vraiment le festival, c'est Life and Death in Gaza de Natasha Cox, donc, qui est un film, qui est une production britannique, et qui, là pour le coup, comme le titre le dit, on va suivre le quotidien de Gazaoui d'octobre 2023 à octobre 2024, sur toute une année. Donc là, on suit vraiment quatre familles dans leur quotidien, leur survie en fait. Pendant les bombardements, pendant la crise humanitaire, ils se filment avec leur téléphone et la réalisatrice propose en tout cas un montage de leur récit.
D'accord, ben justement, j'avais demandé comment elle avait pu réaliser ce reportage parce qu'on sait que les journalistes sont interdits de séjour à Gaza et plus de 200 journalistes qui ont été tués pendant ces 2 ans à Gaza. Et on pense notamment à la réalisatrice d'un documentaire, je voulais en parler, qui était primée à Cannes et qui a été tuée le jour même aussi par les bombes israéliennes, non ?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est... Alors pour le coup, je ne l'ai pas vu ce film. Donc j'ai oublié le titre. Je n'ai plus le titre exact.
Et moi
en tête,
aussi, ouais. J'ai mal préparé parce que je l'ai en tête et ça m'est revenu là.
Mais effectivement, ce sont des films qui sont produits. Effectivement, c'est les Palestiniens, qu'ils soient journalistes ou citoyens, qui prennent leur caméra et qui envoient ces images-là et ensuite qui sont montées depuis l'étranger. Ouais.
Oui, avec le prisme d'une réalisatrice parce que. Je sais qu'aujourd'hui, on voit les images, que ce soit d'ailleurs de la Palestine, mais du monde entier, de conflits au travers des réseaux sociaux. Moi, je suis le premier impacté. J'ai essayé de couper avec ça, puisque des fois, on voit des images qu'on n'a pas envie de voir ou en tout cas qui marquent. C'est pas qu'on a envie de se cacher la réalité, mais qui sont, je pense, peuvent être traumatisantes pour certaines personnes. Et le documentaire, lui, il a à charge de justement reprendre tout ce contenu, tout ce matériel et d'en faire quelque chose de plus, comment dire, de plus... capable de raconter un récit, de laisser une marque plutôt que de juste marquer la rétine et d'être oublié quelques heures après.
Oui, tout à fait. En tout cas, là, dans le cadre du documentaire qu'on présente, l'idée n'est pas de choquer, justement, parce que d'ailleurs, même les images qui sont choisies restent, même si on voit les horreurs, elles restent quand même en hors-champ. Mmh. On partage leur quotidien. Enfin, le film nous fait partager leur quotidien, oui, et nous plonge dans ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils continuent de vivre.
Eh ben, on découvrira ça donc au Festival Primed. Raphaël Réuné, je vais arriver sur une question un peu plus abstraite, mais justement j'aime vous mettre des bâtons sur la route aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un bon documentaire ?
Ah, une autre question pas évidente. un bon documentaire, je pense que ça va rejoindre un petit peu la réponse que j'ai déjà donnée sur comment on sélectionne les films. En tout cas, un bon documentaire, ça peut être... en fonction des sujets, vraiment, et en fonction... ça peut être un film avec un récit poignant, dans lequel on a des protagonistes assez forts, en fait, les réalisateurs, les réalisatrices suivent leur récit et leur lutte. Ça, pour le coup, c'est des films qu'on propose assez fréquemment. Mais ça peut être aussi des films... Ah, c'est une question difficile, sincèrement.
Je savais que j'allais vous mettre dedans, parce que c'est vrai que...
C'est des films qui peuvent nous émouvoir, oui.
Exactement, qui nous touchent. Hein.
Qui nous touchent, ouais, ce soit même quand le récit n'est pas forcément engagé et fort, ça peut être... C'est l'idée d'être touché, en fait, par ce qu'on voit.
D'être marqué, de garder une trace. C'est vrai que je posais la question parce que je me pose... Les questions que je pose, je me les pose à moi-même avant de les poser toujours aux invités. Et c'est vrai que pour être un grand fan de documentaires, je regarde régulièrement des documentaires et je remercie Arte en passant parce qu'ils ont un vaste choix et un vaste programme qui est toujours en accès gratuit et libre. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que des fois, on peut être touché par un documentaire où on ne s'attendait pas du tout à être... Là, j'ai vu un documentaire récemment sur les sangliers. Je dis... Mais c'est vrai que j'ai été hyper touché par l'histoire du sanglier dans le temps, de comment c'était un animal hyper sociable, comment il évoluait dans son environnement, comment le regard avait changé. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même qu'il y ait quelqu'un un jour qui se dise, je vais faire un documentaire sur le sanglier. Et puis quelques semaines, quelques mois après, plus tard, moi, je suis dans mon canapé et je me dis, ah ben c'est un animal pas si bête, le sanglier. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de... On ne sait jamais sur quoi on va être touché avant un documentaire. Des fois, ça peut être des sujets tellement... hors de notre monde, qu'il y a toujours cette surprise de la découverte, de la curiosité d'un monde qu'on ignore complètement.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, cette année, sans que ce soit un film sur les sangliers, on en a un qui est assez atypique, tire vers l'abstrait, et même sort un peu du cadre du pur documentaire. C'est le film « Je suis la nuit en plein midi » de Gaspard Hirschi, où là, où on est entre fiction et documentaire, où il va mettre en scène un Don Quichotte et son écuyer qui parcourent Marseille, de quartier en quartier, qui se confrontent à la réalité.
Okay.
En fait. Et sur le papier, comme ça, ou le scénario, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça va être ce film-là ? Et en fait, c'est un film à la fois très drôle et très touchant, qui décrit, je trouve, avec une certaine justesse, le cloisonnement de la société à Marseille, allant autant des community gates, en tout cas des résidences fermées, aux cités ou aux quartiers populaires de Marseille. C'est un film qui, je trouve... arrive à, en tout cas à dire quelque chose de cette ville, malgré les divisions.
C'est génial. Et Don Quichotte, il se bat contre quel moulin à Marseille, du coup ?
Il se bat contre énormément de moulins, en fait. ça va des résidences huppées aux cités.
Il y a pas mal de sujets à c'est l'idée originale, en tout cas. Justement, je voulais parler en dehors de Don Quichotte et de ce que vous proposez comme documentaire. Est-ce que le festival aujourd'hui, moi j'ai ma petite réponse déjà, mais est-ce que vous avez un rôle éducatif ? Est-ce que vous avez des partenariats avec les scolaires ? Comment vous essayez d'inclure la jeunesse dans ce beau festival ?
Oui, bien sûr, il y a toute une partie de notre festival qui est dédiée au jeune public, donc principalement au collège et au lycée de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc on travaille en partenariat effectivement avec l'Académie et on propose en tout cas, comme le festival remet des prix à ces jeunes, de devenir, en tout cas d'intégrer un jury.
Ah oui, comme pour le concours des lycéens, mais version Primed, du coup.
Voilà, tout à fait, c'est le même principe. Donc on a près de 1500 élèves, donc rien que sur l'académie, donc ils vont visionner 3 films, mais on travaille aussi en partenariat avec des institutions en Méditerranée, où notamment on est allé récemment en Égypte, où 800 à 900 élèves ont également visionné ces films-là pour voter sur ce pour lequel ils ont préféré, en fait.
Ah oui, génial, et donc ça fait des ponts entre ces mondes-là, juste entre les lycéens égyptiens et les lycéens marseillais.
Ouais, tout à fait, effectivement, c'est ça qui se passe. Et on travaille aussi avec des lycées en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Donc vraiment, on essaye d'avoir de toucher les jeunes de toute la Méditerranée et de les écouter. En fait, l'idée de ce projet, c'est qu'effectivement, ils vont visionner des films, mais l'idée, c'est qu'ils expliquent, qu'ils argumentent leur point de vue sur les 3 films qu'ils auront vus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les idées se confronter, les échanges qu'ils peuvent avoir, malgré les kilomètres qu'ils peuvent les séparer.
Ah, ben oui, j'imagine. Et surtout de voir le regard de la jeunesse sur notre monde, c'est toujours intéressant, c'est toujours surprenant. Raphaël Réunet, moi, je sais que j'aime toujours les anecdotes dans l'histoire. Et je l'ai dit, hein, le Festival du Primed, c'est un festival qui n'est pas loin de la maturité, parce que 29e édition, c'est un festival qui dure dans le temps. Vous, en tant que chargé du public, est-ce que vous avez un souvenir fort, un moment marquant dont vous avez l'envie de nous partager ? Moi, je sais que j'adore l'anecdote dans la grande histoire, et je voulais savoir si vous aviez un moment dont vous aviez envie de parler.
Oui, tout à fait. Alors, ça va concerner les jeunes, encore, pour continuer dessus. C'est que au-delà des 3 films qu'on leur propose en compétition, on organise des projections débats, où ils ont la possibilité de découvrir un nouveau film, et d'échanger à la suite avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et il y a déjà quelques années de ça, je crois que c'était il y a 3 ans, sur le film As I Want, donc c'était un film, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, je suis désolé.
Beaucoup de noms à retenir.
Qui est réalisatrice palestinienne qui a vécu en Égypte et qui avait fait tout un film sur la lutte du droit des femmes en Égypte et sur les violences sexistes et sexuelles qu'elle subissait, qu'elle elle-même a subi là-bas et que d'autres femmes subissaient. Et le film, en tout cas, après la projection, il y a une jeune fille qui a raconté à tout le monde, qui a expliqué qu'elle avait été violée dans sa jeunesse. Quoi.
Ah oui, ah, donc voilà, ça a ouvert clairement la porte sur un... Ah ouais, donc c'est un moment très fort pour le coup.
Ouais, tout à fait, donc moment effectivement très fort où ce film-là a permis à cette jeune fille de mettre des mots, de les exprimer sur ce qu'elle a vécu, ouais.
Ah donc ouais, c'est oui, c'est... un moment qu'on n'oublie pas, j'imagine. Ouais.
Oui, tout à fait.
Et je voulais donc parler de jeunes réalisateurs, jeunes réalisatrices, puisque le Festival du Primed, j'ai vu dans les récompenses, récompenser le premier documentaire, donc la première réalisation. Comment vous faites pour découvrir justement ces jeunes pousses du monde du documentaire?
Bah, de la même manière qu'on découvre un petit peu tous les films, en tout cas, c'est... nous, on fonctionne par appel à films, hein, qu'on communique auprès de notre réseau professionnel. Donc là, les producteurs, les réalisateurs, les réalisatrices nous envoient directement leurs créations. Après aussi, on fait un travail de veille, effectivement, sur ce qui se passe dans les festivals et sur la nouvelle création, pour savoir un petit peu les films qui pourraient nous intéresser dans cette catégorie ou dans d'autres. Donc,
ouais, c'est comme ça que vous arrivez à trouver, et j'imagine que donc ils sont nombreux, nombreuses. Si vous aviez, vous, en tant que donc chargé du public, mais aussi avec votre regard de la programmation de ce festival que vous suivez depuis des années maintenant, qu'est-ce que pour un jeune cinéaste qui voudrait se lancer dans le documentaire, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil, comme premier conseil pour faire ses premiers pas, parce que j'imagine que c'est un long chemin pour arriver à réaliser un premier documentaire. Qu'est-ce que vous donneriez comme chemin?
Ah, moi je lui dirais de y aller, même s'il n'y a pas forcément les sous pour faire son projet, hein, c'est de le faire coûte que coûte et d'y mettre tout son cœur.
Ok, donc tout simplement ouais. Le faire et puis voir quoi.
Ouais, et puis voir, et si pour le premier, bon, il n'arrive pas à le diffuser, c'est pas grave, on recommence, ouais.
Ouais, bah surtout qu'en plus on est à Marseille, donc aujourd'hui avec un iPhone et un caddie, on peut faire un Don Quichotte, j'imagine.
Bah peut-être, ouais.
Bon, l'idée est déjà prise, mais pour le prochain, voilà. Je voulais parler donc de cette édition du Primed, savoir s'il y avait des nouveautés, puisque le Primed, vous l'avez dit en introduction, Raphaël, mais donc ça se déroule à l'Alcazar, la mairie du 1er et du 7e, au MUCEM, à l'Arplex, donc c'est un festival qui est présent sur les spots, on va dire, connus et reconnus de Marseille. Est-ce que vous avez des nouveautés sur cette édition?
Allez. Oui, effectivement, on en a 6 cette année, en tout cas, on a 6 films qui font une première en France. On a notamment, dans la catégorie art, culture et société, on en a 2. Donc on a House with a Voice, là qui est un film assez intéressant qui nous amène en Albanie, où on va découvrir le quotidien de Burnishas, qui en fait sont des femmes qui ont renoncé à leur féminité pour devenir des hommes, en fait.
Okay.
Voilà, ah oui, donc c'est selon un code traditionnel, donc le code canin. Parfois elles l'ont fait par choix, effectivement, pour soutenir économiquement la famille quand elles étaient l'aînée en fait d'une famille, ou alors ça peut pour certains ou certaines c'est le choix des parents en fait où là c'est un petit peu tragique, c'est ils voulaient pas avoir de fille, donc ils ont dit que ce serait du coup un homme, donc un Burnishas. Ouais.
Ok, voilà. Ah, c'est surprenant. Comme les rérés à Tahiti, qui peuvent les premiers aînés de famille qui deviennent femmes traditionnellement, mais c'est la version albanaise, mais dans l'autre sens, c'est les femmes qui deviennent
ça y ressemble un petit peu. Je sais pas à quel point, je connais pas assez pour dire s'il y a des concordances, mais effectivement, oui, c'est ça.
Ah, c'est intéressant, hein. Je savais même pas que ça existait en Europe pour le coup.
Ouais, c'est assez particulier parce que du coup, on voit en devenant Burnishas. Il ou elle accède, peuvent travailler dans la société.
Ils sont reconnus comme un homme par la société.
Elles sont reconnues comme homme par la société, s'habillent en homme, travaillent. Donc vraiment, il ou elle accède à une certaine autonomie aussi. En voyant le film, la plupart sont issus de villages assez reculés. Et en fait, on comprend très bien que ça leur permet d'accéder... à une autonomie.
Et pas d'avoir les contraintes qui sont imposées aux femmes au travers, j'imagine, dans la société albanaise comme ailleurs, quoi.
Exactement, exactement. Et ce qui est assez intéressant, c'est à la fois Il n'y a aucune revendication LGBT par ces personnes-là.
Oui, parce que c'est un autre monde.
C'est un autre monde, mais à la fois, ça y ressemble. Ouais. En tout cas, je trouve que ça pose des questions sur le genre qui sont assez fascinantes. Et les réalisatrices de ce film-là le mettent, en tout cas, posent ces questions.
Ben oui, pour le coup, mais moi, je suis surpris d'entendre parler. Donc, quel autre documentaire ? Parce qu'on va pas, j'aimerais pas résoudre d'autres questions, mais on
oui,
est pressé
pardon,
par le
oui.
temps, malheureusement.
Effectivement, donc on a un autre film dans cette même catégorie. Donc, on a Alice par-ci, par-là, de Isabelle Attent, où là, on va suivre le destin tragique d'une jeune mère, d'une jeune femme qui a été mère beaucoup trop jeune, qui a été mère mineure, avec un père, dont le père de l'enfant avait plus de 50 ans. Et on va suivre, la réalisatrice suit pendant près de 10 ans son quotidien, sa vie
et son chemin de vie,
qui est très difficile, qui est à la fois pris entre le travail du sexe, la drogue, c'est un destin tragique de vie pour le coup.
Ok, toujours intéressant aussi de découvrir les destins et les chemins de vie d'autrui. Raphaël, on va devoir terminer cette interview, même si j'aimerais la prolonger parce que c'est passionnant de découvrir ce festival, mais je pense qu'on va pas divulgâcher plus et on se retrouvera pour le festival du Prix de Metz, donc du 29 novembre au 6 décembre. Question importante, très importante pour terminer, c'est combien le prix pour voir les documentaires au festival du Prix de Metz ? Quel est le prix pour voir une projection ? Comment on fait pour venir voir ?
Ah oui, pardon. Alors, le festival est entièrement gratuit. En fait, il suffit de venir à la séance de votre choix. Et en fonction, s'il reste des places, vous pouvez évidemment y venir.
Totalement gratuit ?
Totalement gratuit.
Donc, on peut s'inscrire gratuitement et en famille ou avec des amis et venir voir un documentaire du Prix Med.
Tout à fait. Il suffit de se rendre dans les salles où il y a des projections.
Génial. Et bon, alors ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et ensuite, donc, on se retrouve, donc, c'est du 29 novembre au 6 décembre. Comment on peut retrouver la programmation complète ? Parce qu'on l'a dit, c'est beaucoup de projections, donc tous les jours de 10h30 pour certains, jusqu'à tard, hein, puisque ça peut arriver à 20h. Pour ce qui est de moi, c'est très tard. Je suis une vieille personne maintenant. Comment on fait pour retrouver la programmation complète de ce festival ?
Alors, on retrouve toutes les projections, en tout cas le programme détaillé, sur notre site internet primed.tv.
Oh, ok, voilà, c'est très simple, primed.tv, sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi,
oui,
Facebook,
évidemment.
Instagram, etc. Mm-hmm. Raphaël Réuné, merci à vous d'être venu parler de ce beau festival, un festival qui fait sa 29e édition, donc l'année prochaine on se retrouve pour la 30e, et on vous souhaite bon courage et bonne chance pour cette édition qui se déroule, je le rappelle, du 29 novembre au 6 décembre dans les lieux emblématiques de Marseille, qui sont l'Alcazar, la mairie du 1er et du 7e, le Mucem et l'Arplex.
Merci infiniment.
Avec plaisir.